Ça va mieux, Jean-François Mignard, Jacques Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors pour commenter cette actualité, Jean-François Mignard et moi sommes en compagnie, et on la remercie d'être venue en plateau, sommes en compagnie de Geneviève Azam, économiste, maître de conférence en économie, chercheuse à l'université de Toulouse Jean Jaurès, et par ailleurs agrégée en sciences sociales. Alors elle a beaucoup d'autres titres, mais parce qu'elle fait beaucoup de choses, elle participe à beaucoup de mouvements, je suis sûr qu'elle nous en dira un mot tout à l'heure, dont nous allons de suite rentrer dans le vif du sujet, essayer de commenter quelques événements qui agitent notre pays et quelques autres dans le vaste monde. On va parler de notre nouveau Premier ministre et de son gouvernement. On va parler des deux conflits qui déchirent le monde, Ukraine et Palestine. On va parler du Pas-de-Calais aussi, qui baigne, et on va essayer de se demander pourquoi il baigne, parce que personne ne nous en parle jamais. Pourtant, il y a d'excellentes raisons à cela. Et puis, on en fera un petit détour, si on en a le temps, par le Pakistan, où il se passe des choses un peu... pas si surprenantes que ça, finalement, quand on veut bien y réfléchir. Voilà, c'est Ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Alors on commence toujours par la traditionnelle citation.
J'en aurais une à vous proposer, Jacques.
Bon, eh bien, alors bon, on commence par la mienne, puisque je l'ai annoncé.
Bien sûr.
Ouvrez les guillemets, on souffre par l'insignifiance de tout ce que nous vivons. Fermez les guillemets, c'est de, je regarde, mes partenaires.
Rochefoucauld.
Non, c'est beaucoup plus proche, c'est de Milan Kundera.
Ah, très bien.
On n'était pas très loin.
Non, dans le siècle. Alors moi, j'ai une citation, c'est pas un aphorisme, c'est une affirmation de poète. Hein. Je la trouve tout à fait d'actualité. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. C'est de qui ?
Groucho Marx.
C'est de Mahmoud Derwish, qui est un grand poète palestinien.
Oui, bah, il fallait les citer. Hein. On parle toujours des Palestiniens, mais jamais pour ce genre de choses. Alors, c'était bien utile. Allez, quelques chiffres. On va parler de ce nouveau jeune Premier ministre que le président a donné à la France, comme avait dit Mitterrand à Attali. Donc, 34 ans et 9 mois, donc plus jeune le Premier ministre de la République.
Alléluia.
Laurent Fabius, c'était 37 ans et 11 mois.
Mmh. Voilà. Mais lui, c'était lui, et moi, c'est moi.
Tout à fait. Un record que Gabriel Attal ne battra pas ? Une idée ? Celui du passage le plus rapide au ministère de l'Éducation nationale, voilà, 4 mois, 24 jours.
Voilà, oui.
C'était Benoît Hamon qui fait un passage stratosphérique.
Oui. Les enseignants apprécieront.
Oui, je pense, les pauvres. Concrètement, 40% des Français, je l'ai lu, ont une opposition positive du nouveau Premier ministre. Bon, c'est bien, mais c'est pas miraculeux. Borne était, je crois, à 44% quand elle est arrivée à Matignon. Et puis Bayrou et Philippe, qui tous les deux se sont vigoureusement opposés à l'arrivée d'Attal, on a vu le résultat, qui pèsent respectivement quand même 20% et 12% du total des députés de la majorité présidentielle. Donc Gabriel, c'est pas gagné pour toi, mon grand, va falloir ramer.
Oui, d'autant que... Mais bon, alors, je propose qu'on passe pas trop de temps ensemble, parce que tellement c'est un théâtre d'ombre. Mais je pense que ce qui est, me semble-t-il, ce qui est intéressant, c'est de mesurer le niveau de déchéance auquel est arrivé aujourd'hui, alors, la Macronie, mais ça, on commence à avoir l'habitude, mais le système démocratique, pour le coup, parce que c'est le système qui est le système aujourd'hui en place. Hein, puisque on voit arriver un Premier ministre, lequel, déjà, il y a des ministres qui lui disent « Mon coco, on a déjà été adoubé et tu ne vas pas nous sortir de là, Darmanin. » Voilà,
si on remonte un peu en amont, ce qui est déjà aussi surprenant, c'est que le président est renvoyé la Première ministre, parce que finalement, en droit constitutionnel, ça ne marche pas comme ça.
C'est assez moyen.
C'est tout à fait moyen. Alors, bon, jeune ministre qui, on nous dit, il est issu de la gauche. Borne aussi était issu de la gauche. On s'en est pas vraiment aperçu, mais on sait plus trop ce que gauche veut dire aujourd'hui. Alors, prendre un jeune pas encore fait, entre guillemets, comme l'on dirait pour un camembert, sera pour le président qui ne peut plus se représenter un gage quand même de souplesse, de tranquillité, d'obéissance, car aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer que les décisions, quelles qu'elles soient, les grandes, les petites, les importantes, les mineures, sont prises à l'Élysée, ils décident de tout, et le Premier ministre n'est plus, malheureusement, qu'un exécutant aux ordres de son maître, qui ne lui tolère aucune initiative personnelle, puisque le président Macron pense qu'il est omnipotent et omniscient, il nous l'a prouvé depuis plusieurs années, enfin il nous a prouvé qu'il le pensait, mais pas qu'il l'était en réalité compte tenu du résultat.
Donc, c'est bien ça qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre la représentation que parle le président de la République de son pouvoir et la réalité des faits, qui fait que la plupart des gens ont quand même compris maintenant que c'est ailleurs que ça se passe, ce qui est là aussi inquiétant pour la démocratie, parce que c'est là que ça devrait se passer. Ou alors il faut qu'on s'en cause, pour le dire.
Voilà, comme ça. Alors c'est une façon également pour ce président qui est minoritaire à l'Assemblée de créer l'événement, donner l'impression qu'il a encore la main et de cacher certainement une relative impuissance, voire une certaine incompétence, puisque certains, dont je fais partie, pensent qu'il n'a pas forcément l'intelligence de la fonction. Alors ce nouveau Premier ministre, ça va être quoi? C'est un écran de fumée? C'est un réel tournant du quinquennat? Bon, François Mignard qui brûlait d'envie de parler s'est déjà exprimé, donc il va terminer avant de passer la parole à Geneviève Azam.
Oui, non. C'est un non-événement politique, par ailleurs. J'ai l'impression... Sur le moyen et le long terme, et en dehors de l'opération de communication que ça représente, voilà. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, effectivement, c'est des lois qui sont votées tenues avec la main des ministres et des députés tenus par l'extrême droite, et voilà. La seule chose qui est un peu encore plus dramatique que ça, je trouve, c'est que, et je pensais à mes collègues enseignants, c'est qu'on annonce Aurore Berger au ministère de l'Éducation nationale. Enfin, on annonce tout ça. Alors, juste un truc. Et un dernier commentaire, ce qui est absolument hallucinant aussi, c'est la capacité, alors vraiment moi, chapeau bas, que peuvent avoir les journalistes, et notamment ceux qui sont dans les chaînes d'information continue, de tenir depuis maintenant 48 heures pour rien. Ils n'ont rien à annoncer.
Mais ils le font très bien.
Mais ils tiennent très très bien l'antenne. Alors, le système politique est quand même sacrément en crise. C'est un bon indicateur sur le système médiatique aussi, voilà.
Geneviève Azam, notre invitée, comment vous voyez, vous, l'universitaire, l'économiste, comment vous voyez cette affaire? Et puis, je sais que vous êtes aussi engagée dans un certain nombre de mouvements dont on parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nouveau jeune Premier ministre donné à la France?
Quand Jean-François l'a dit, c'est un non-événement, c'est l'insignifiance.
Oui, et c'est
du castoriadisme.
Oui, c'est ça, c'est le castoriadisme. Enfin, c'est une insignifiance signifiante quand même, hein, qui signifie... Bon, bref, je crois que j'ai pas trop envie d'ajouter aux commentaires, quoi. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, et là, j'ai débranché sur ça. Parce que c'est vrai que c'est les chaînes en continu depuis 48 heures, c'est ça. Moi, j'ai débranché. Parce qu'il y a des événements dont on va parler d'une autre importance que celle-là. Alors même si c'est vrai que pour la démocratie, etc., ça ajoute une pierre encore à la destruction des bases démocratiques de la société. Donc voilà. Mais alors après, il est jeune, voilà.
Oui, ce qui n'est pas forcément gage non, de réussite.
Ça ne veut rien dire. Si il pourrait être vieux aussi, pourquoi pas.
Bien sûr. Hein,
oui, mais c'est quand même peut-être plus facile pour Macron de s'imposer envers un jeune qui a besoin de faire ses preuves que s'il avait pris un vieux qui lorgne sa place, par exemple. Ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui d'avoir barre sur son Premier ministre, sans jeu de mots.
Il n'est pas certain que Gabriel Attal soit le petit élève docile. C'est pas certain. Parce que parfois, l'élève dépasse le maître. Hein.
Ah, l'histoire nous a montré des retournements.
Mais Macron, c'est un peu l'histoire de Macron aussi. Donc, des retournements le choix du jeune, moi, je pense qu'il est tout à fait construit.
Vous pensez qu'il peut se faire déborder
Ah, mais il est construit, Emmanuel Attal. C'est pas un jeune...
Le lapsus est significatif. Voilà.
Mais il a été formé à l'école alsacienne, quand même.
Bien sûr. Il n'a pas eu à se déplacer beaucoup.
Après, on a les universités qu'on peut. L'école alsacienne, je crois, est une bonne maison sur le plan d'enseignement, non?
Excellente maison. Excellente charmante maison pour ceux qui ont de l'argent pour y rentrer. C'est excellent.
Bah, il vaut peut-être mieux quelqu'un qui soit bien formé que quelqu'un qui n'ait qu'une formation...
Vous savez, les jésuites formaient très bien aussi. Oui. Il y avait des écoles magnifiques hein, des jésuites.
Non, alors, c'est peut-être ça, de manière un peu plus sérieuse là-dessus, bien sûr. Mais quel et sans faire du entre guillemets populisme insulte molle hein, que je voilà c'est vrai que il faut je pense que les gens sont les gens bien formés les pointus etc etc mais on a vraiment l'impression que c'est au prix d'un éloignement assez sidéral de la réalité du vulgum pecus. Je veux dire, c'est quand même un des traits de la Macronie. Et là, on a Macron Boy. Voilà, c'est assez. J'ai beaucoup aimé le titre Libé en disant Macron Premier ministre. On a quand même un profil qui est un profil qui est. Je me demande dans quoi vit ce monsieur. Au regard du très bref passage qu'il a eu à l'Éducation nationale, c'est assez terrifiant. C'est quelqu'un qui fait de la cosmétique, de la communication, y compris au prix de magnifiques contre-vérités. J'insiste une au passage. Alors on est dans le réac. Le en même temps, c'est fini. Là, je crois qu'on est c'est à peu près réglé. Mais c'est au prix de n'importe quoi. Par exemple, on va, semble-t-il, remettre l'uniforme dans les écoles. Alors c'est très marrant, moi je suis à l'origine, dans une autre vie, j'étais instituteur de la République laïque, j'ai fait ça à l'école normale et tout.
Avec des élèves qui avaient le tablier ?
Il n'y a jamais eu d'école dans l'école publique française. Et pourtant ça a donné lieu à quelques débats. Il y avait un tablier effectivement, il y avait des tabliers parce qu'on écrivait à l'encre, voilà. Et que les gens dans la vie courante portaient le tablier et que l'école, c'était pas l'école alsacienne celle-là, je vais faire un peu comme ça, vivait au milieu des gens qui eux-mêmes portaient des tabliers, voilà. C'est, on a quand même une espèce d'élite au carré, pour le coup. Alors, c'est assez étonnant qu'on démantèle l'ENA pour sortir, pour démanteler l'élite, et qu'on ait déjà un pur produit école alsacienne, Sciences Po, les ministères, qui sont aux manettes. Voilà.
Donc, ça veut dire qu'on est sur du faire savoir et donc de la communication.
Oui, oui.
Pure et simple, sans faux. Vous enseignez en robe, Gervais Vazan ? Ah, moi, j'ai eu des professeurs
en droit.
C'est très connu à Toulouse, d'ailleurs.
Oui, il y en a encore qui enseignent en droit. Oui. On peut même en citer un certain, qu'on aime bien, d'ailleurs.
En droit, mais en sciences éco, non. Il n'y avait pas la toge. C'est les juristes qui avaient la toge.
Les juristes sont toujours très traditionnalistes.
Voilà. Ils sont un peu réactionnaires, retardataires.
Oui, d'ailleurs, c'est mon cas, finalement.
Je ne voulais pas le dire.
Il y a une théâtralité.
La mise en spectacle.
Bon, donc bon. Effectivement,
c'est un non-événement quand même.
Oui, la conclusion, c'est que nous n'avons rien à dire sur ce qui se passe.
Non, rien à rajouter.
On ne va pas faire LCI et, et BFM.
Alors parlons de notre sujet. Donc c'est celui de ces deux conflits qui déchirent le monde, hein, puisqu'on le voit, notre monde est devenu de plus en plus chaotique, désaxé, dangereux, imprévisible. Parmi les nombreux conflits qu'il agite, deux nous touchent de près. Alors, il faut savoir que des conflits, il y en a quand même partout dans le monde. J'entendais ce matin qu'il y a une ONG qui a fait le catalogue des conflits oubliés, ce qui serait quand même intéressant de s'y pencher dessus.
Oui, il y a des continents qui sont en guerre depuis...
Oui, qui sont ravagés en permanent, notamment en Afrique.
Mais c'est pas chez nous, voilà.
En Afrique, ils sont noirs, donc effectivement, ça nous intéresse moins, il faut bien le dire. Alors, parlons d'abord de l'Ukraine, hein, qui peut être considérée comme un conflit existentiel pour une Europe politique en construction depuis malheureusement trop longtemps, et puis pour les valeurs de cette Europe aussi. Et puis ensuite, la Palestine, où Israël poursuit tranquillement le massacre des populations civiles, la destruction systématique d'un pays qui était déjà, avant le conflit, considéré comme martyr. Et tout cela sans que l'Occident ne manifeste vigoureusement sa désapprobation, on entend quelques voix, mais elles ne sont pas dominantes. Donc il va être difficile à ce même Occident de demander aux pays que l'on appelait autrefois du tiers-monde, maintenant on dit du sud global, enfin tout ça ne veut rien dire.
Les briques.
Voilà, leur soutien dans le conflit qui les oppose indirectement à la Russie, on pourrait presque dire d'ailleurs directement à la Russie, et qui risque de durer tant le temps joue en faveur de Poutine, qui le sait parfaitement, puisqu'il a, lui, d'importantes réserves de chair humaine, et surtout c'est pouvoir jouer sur l'inconstance d'une opinion publique occidentale plus portée sur le laisser-aller judiciaire que sur la pugnacité et les sacrifices que nécessite un conflit de cette importance et qui mégote toujours l'aide militaire aux agressés tout en s'étonnant que leur contre-offensive ne soit pas plus performante. Comprenne qui pourra sur cette question, Geneviève Azam ?
Sur la guerre en Ukraine.
Oui, sur guerre en Ukraine, Gaza,
les guerres
en plus qui sont plus ou moins quand même un peu liées, hein, puisque les effets de l'une impactent l'autre et réciproquement.
Je ne sais pas comment dire des choses très, très générales. Ce que je sais, en tout cas sur le conflit Israël-Palestine qui nous touche au premier degré, je dirais, hein, voir toutes les réactions qu'il peut y avoir... on touche à quelque chose que, enfin, ça a été beaucoup écrit, hein, qui est de l'ordre de l'humanité, hein, c'est-à-dire que à la fois, c'est très délicat, hein, bon, c'est un sujet extrêmement délicat et casse-gueule, je dirais.
Mais nous n'avons peur de rien ici.
Bon, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que
il faut prendre le risque aussi.
Il faut prendre des risques.
Oui, aujourd'hui,
il faut prendre des risques. Moi, ce que je constate à la lecture, en lisant les journaux israéliens, Haaretz, etc., c'est qu'il y a aussi dans la société israélienne, il n'y a pas que ce qu'on nous présente. Il y a aussi des gens minoritaires, mais c'est par les marges que changent les sociétés souvent, des gens minoritaires qui continuent à vouloir tisser des liens d'amitié, des liens politiques avec les Palestiniens, et ça se passe concrètement, et en particulier des femmes. Et là, ça, je veux absolument le souligner, des associations de femmes qui retissent les liens avec des associations de femmes palestiniennes, qui, quand les deux familles ont perdu des enfants, aussi bien du côté des Palestiniens que du côté des Israéliens. Donc moi, je dois dire que l'espoir, je le vois là, et je le vois pas dans la grande pour l'instant, dans la géopolitique internationale. Bon, la position des États-Unis perdure. Hein, ils continuent à financer l'État d'Israël et donc financer ce qu'on peut appeler un génocide. Moi, j'en sais rien. Je me situe pas du tout sur
On parle de 23 ou 24 000 morts. Alors, je sais pas d'où sortent les chiffres. Ils sont certainement vérifiés.
C'est le Hamas qui dit ça.
Oui, c'est le Hamas qui dit ça. Mais bon.
Oui, en même temps, il y a en face, donc, et là, bon, après, on peut discuter, hein, un mouvement, le Hamas, dont une partie, moi, je peux dire, est islamo-fasciste. Bon. Qui ne représente pas, selon moi, un véritable outil de libération pour les Palestiniens, même si aujourd'hui, on peut très bien comprendre que les Palestiniens à l'intérieur, hein, du fait de ce qu'ils vivent, hein, aujourd'hui mettent un espoir dans le Hamas, parce que effectivement, il a repris un flambeau. Et ça, c'est... Enfin, on est dans une situation totalement tragique. Bon, du tragique peuvent surgir des événements inattendus. On peut l'espérer. Mais jusqu'où va aller le drame? Moi, ça, je ne peux pas l'espérer. Moi, ce que j'espère, hein, un peu, enfin, j'espère, je souhaiterais, hein, c'est que ça vienne du côté de la société israélienne, qu'elle se réveille. Bon,
elle est réveillée parce qu'ils ont quand même beaucoup manifesté. Alors, ce qui est très curieux, c'est que quand Poutine a envahi l'Ukraine, il a dit c'est une dictature. Et là, nous avons un pays qui est quand même démocratique et qui fait exactement la même chose à l'égard d'un pays tiers. Exactement la même chose.
Ce qui laisse à penser que le fait de s'affirmer démocratique n'est pas suffisant pour définir de manière assez complète et légitime l'existence d'une forme de gouvernement. Voilà. Juste un truc. L'intérêt des émissions qu'on fait, c'est qu'on s'inscrit un peu dans la durée. On a déjà parlé de cette question-là. Hein, il y a deux ou trois émissions. Et avec quelqu'un qui est pas là, d'ailleurs, mais ce serait intéressant de réavoir le débat. Et où j'avais dit, attention au campisme. Attention au campisme.
Absolument.
C'était à l'époque, c'était pas, il y avait pas le, il y avait pas le, le conflit, la guerre. La guerre, c'est compliqué, je veux dire, la guerre d'un pays, que fait un pays à une enclave, à le bombardant, un truc comme ça, on va dire ça, le conflit ou les violences, voilà. Hein. En Ukraine et en Russie, on a la guerre, voilà. Et y avait cette espèce de discours qu'on a réentendu, qui, de mon point de vue, a été complètement manipulé, c'est les marches de l'Occident qui se battent contre, à l'occurrence, la Russie, c'était, hein, voilà. Et les Ukrainiens qui se battent contre
la
Russie,
c'est
nous qui nous battons contre ça, voilà. Et on a eu droit, on a eu droit au même discours avec une réification, une essentialisation de l'autre en disant, bon, les Russes, allez, sur le fond, ce sont des gens qui ne sont pas des démocrates. Hein. Alors, il se trouve que, bon, moi, je connais des gens directement concernant les deux lieux de conflit et qui sont partagés des fois dans des espaces très différents. Des Russes et des Ukrainiens, des Palestiniens et bon, il se trouve que voilà, c'est, donc j'entends plein de trucs. Mais je pense que cette question magnifique introduction que vous avez faite, Jacques, bien entendu, elle montre bien que c'est vachement plus complexe que ce qui à une époque était annoncé, ce à quoi on essaye de nous essayer à attraper. Alors, et sur la géopolitique, moi, c'est plutôt du côté de Bertrand Badi que ça m'intéresse. C'est-à-dire, comment aujourd'hui on est confronté à quelque chose qui est beaucoup plus complexe que la grande époque où il y avait l'Est, l'Ouest, etc. C'est autre chose qui est en train de se jouer, qui nous rend les trucs très, je trouve, très difficiles. Et c'est pour ça que c'est une situation dangereuse. Hein, surtout qu'on on est en permanence renvoyé, encore une fois, dans l'essentialisation. On ne peut pas critiquer le gouvernement israélien sans être taxé d'antisémitisme. Être antisémite. Moi, je connais pas des gens qui sont antisémites comme ça. Je connais des gens qui ont des propos ou des attitudes antisémites. Mais on n'est pas antisémite. On a des pratiques, voilà. Et de la même manière que les Russes, moi, je connais des Russes qui sont des gens pro-russes et qui disent que les Ukrainiens sont des fascistes. Et d'ailleurs, la justification de la guerre des Russes contre les Ukrainiens, quand vous allez en Russie, et moi j'ai pas mal d'écho là-dessus, c'est en gros, on est en train de se sauver contre quasiment les oustachis ou les fascistes que pouvait représenter l'Ukraine.
Mais ça, c'est de la communication, ça.
C'est une communication qui marche. Alors moi, j'ai toujours un truc. Bien sûr que c'est la même question qu'on pourrait se poser toutes choses à l'état encore par ailleurs, comme concernant ce qu'on vient d'évoquer concernant Macron. C'est cosmétique, c'est de la communication, c'est vrai, mais ça marche. Autrement dit, ça dit quelque chose de plus profond que la communication en tant que telle. Voilà. Ce qui me fait dire qu'on est une régression un peu du côté de la barbarie identitaire, quoi. C'est-à-dire qu'en permanence, les discours qu'on entend, c'est le camp d'en face, ils ne sont pas comme nous. Et ça, c'est pas anthropologiquement, c'est pas un progrès, j'ai envie de dire.
Et ça, voilà. C'est le campisme, justement.
Voilà, voilà. Ouais.
Et j'ai commencé par ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien du côté palestinien que du côté israélien, à la base. Hein. Je ne parle pas cette tentative qu'il y a, c'est pas une tentative, cette réalité, ce sont les kibboutz qui ont été attaqués par le Hamas. C'était des kibboutz justement assez progressistes,
oui,
dirons-nous.
Plutôt déjà un peu de gauche ici.
Qui aidait les Palestiniens,
c'est la tradition
qui aidait des Gazaouis, qui les faisait soigner en Israël, etc.
Bon,
moi, les forces, elles sont là. Pour moi, les forces, elles sont là. Bon, alors c'est évidemment, on va me dire, oh là là, mais c'est rien du tout par rapport à la géopolitique. Ouais, mais d'accord, la géopolitique, ça fait 50 ans qu'on en parle. Et s'il n'y a pas un soulèvement de ce côté-là, ou des amorces de ce côté-là, je ne vois pas du tout comment aujourd'hui, alors on pourrait libérer Georges Abdallah de prison, on pourrait, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire, effectivement, mais le campisme, ça je suis entièrement d'accord, on a été prisonniers du campisme, hein, si tu soutiens, si tu es contre mon ennemi, si tu es ami d'un ennemi, enfin bon bref, toute cette histoire-là, c'est complètement dingue, parce que on est antisémite si on va manifester avec les Palestiniens. Et on est vendu à l'Empire américain si, par hasard, on dit aussi, oui, mais attention...
Il y a des otages.
Il y a des otages. Le Hamas, il y a aussi toute une fraction militaire qui est, pour moi, islamo-fasciste. Voilà. Et là, on va me dire, oui, t'es vendu à l'Empire américain. Donc ça, c'est le problème du campisme.
Ça veut dire qu'on ne peut plus parler. Ça veut dire qu'on va en arriver, comme aux États-Unis, où il y a les républicains d'un côté qui sont enfermés dans leur fantasme, et les démocrates de l'autre côté.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas se parler. Ils veulent se battre. Le tout, c'est de ne pas se faire attraper dans cette logique-là que nous développent les gens. Trump, aux États-Unis, est quelqu'un qui veut se battre. Écoutez la petite musique qu'il... C'est la même que celle que Adorno repérait dans les années 40 aux États-Unis, dans lequel il y avait des prédicateurs d'extrême droite, dont le discours c'était de dire « il faut se battre ». Voilà, on a
ça veut dire que la réflexion des sociétés est tellement basique que ils se raccrochent à des slogans aussi.
Comment les étrangers d'or.
Oui, les étrangers d'or, c'est ça. Oui.
Mais c'est-à-dire qu'il y a une radicalisation parce que en même temps, aux États-Unis, il y a des mouvements sociaux extrêmement intéressants.
Oui.
Extrêmement intéressants. Et je crois que c'est ça la tension qu'il y a aujourd'hui. Le système est menacé quand même. Hein. Et donc la réaction est violente. Ça s'appelle Trump, ça s'appelle Bolsonaro, ça s'appelle
Monsieur Milei peut-être, votre collègue économiste d'Argentine. Je ne sais pas si vous partagez les mêmes théories.
Non.
Vous n'avez pas de tronçonneuse en tout cas aujourd'hui, pas en studio.
Non, j'ai pas de tronçonneuse. J'ai pas été formé au même moule. Mais
Si c'est pas une gesticulation de guerre et de violence, la tronçonneuse.
Ah, mais c'est une violence.
Mais il a été élu. Largement, largement. Là, on se pose des questions.
Autrement dit, cette com-là fonctionne. C'est ça qui est intéressant. Comment se fait-il que quelqu'un comme ça ait pu effectivement être élu? Comment se fait-il que quelqu'un comme Netanyahou, je veux dire, c'est pas un perdreau de l'année, je reviens au conflit qu'il peut y avoir, c'est quelqu'un dont on sait qu'il est, c'est un marchand de tapis infernal.
Oui, puis que la justice attend.
Et peut imaginer qu'à des moments donnés, un des éléments déclencheurs de ce qu'il est en train de faire, c'est pas les manifestations, parce que derrière, il a suffisamment d'affaires pour voilà. Et pourtant, il masque complètement les faibles pour le moment encore aussi discours pratiques interpellations du côté
plus ça
des
dure, plus il se sauve hein, plus il perdure au pouvoir parce qu'on sait qu'il va tomber
c'est aussi parti parfaitement qu'il a joué le Hamas contre l'autorité palestinienne
les Israéliens ont fait ce qui est devenu le Hamas
ce que les Américains ont fait en Afghanistan
exactement.
Avec effectivement les Mujahidin
C'est le syndrome de Frankenstein, ça tourne contre eux. Comme peut-être Monsieur Attal se retournera contre Monsieur Macron.
Peut-être.
Oui, c'est vieux.
Tu le perds.
Oui. C'est la vieille histoire, la vieille métaphore pour rester dans l'air du temps du golem.
C'est ça.
Bien, mais écoutez, je crois qu'on reviendra très certainement souvent sur ce sujet, parce que cette guerre va durer longtemps et que les Israéliens, enfin au moins certains qui sont aux manettes, ont tout intérêt à la faire perdurer. Ils n'ont aucun projet politique manifestement derrière, il n'y a rien. Mais on peut s'étonner aussi que Biden continue à les soutenir contre vents et marées, alors que chez lui...
J'ai entendu Sanders l'autre jour, qui a fait une intervention très très bien, mais vraiment.
Oui, mais Sanders c'est quand même assez...
Oui, mais dans la société en revanche, chez les jeunes, etc. Et les jeunes aux États-Unis, les jeunes juifs aussi aux États-Unis, sont contre cette guerre, de le cessez-le-feu. Des jeunes qui sont d'origine juive, en tout cas qui se revendiquent comme tels. Oui. Donc ça, c'est important.
On a beaucoup parlé de Gaza, mais et l'Ukraine. Que fait l'Europe là, qui traîne les pieds pour fournir à l'Ukraine? L'Ukraine, il lui faut des avions, il lui faut des munitions. Alors apparemment, nous n'avons pas énormément de réserves de munitions et donc l'Ukraine ne reçoit pas ce qu'elle devrait recevoir, en dehors du fait que M. Orban se met un peu aussi en travers de ce que voudrait faire l'Europe.
Quand l'Europe est réduite à l'état de marché, il ne faut pas s'étonner que du côté du politique, ce soit un peu mou du genou, pour le dire trivialement, là aussi. Je veux dire, une certaine définition de l'Europe. Quel est le projet européen politique?
Ça fait 20 ans que certains ont mis quand même un frein sur une Europe politique. Schröder, Chirac, les Espagnols, les Italiens à une certaine époque. On ne veut pas d'une Europe politique. Or, seule, elle nous permettra de nous sauver. Est-ce que le fait que... Si Trump revenait au pouvoir, est-ce que ça ne...
C'est une émission qui s'appelle « Ça va mieux », ça.
Oui, ça s'appelle « Ça va mieux », oui. Est-ce que l'Europe ne retrouverait pas peut-être un certain engouement pour se ressouder et faire véritablement de la politique et plus un marché? Grand silence.
La seule réaction que je peux avoir, c'est de dire je ne sais pas si elle va en profiter, mais elle va avoir intérêt à le faire, pour le coup,
L'hypothèse d'un Trump élu en fin d'année n'est pas déconnante, si vous me passez le terme.
Oui, surtout si effectivement, par exemple, Biden se met à dos toute une partie de la jeunesse, ce qu'évoquait Geneviève.
En même temps, je pense que poser la guerre en Ukraine uniquement en termes de course aux armements des deux côtés, pose un problème, y compris pour l'Europe, mais pas seulement de la militarisation des sociétés, ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce qu'il faut financer la guerre. Donc, je ne dis pas que je suis... je pense qu'il faut que l'Europe soit active, évidemment. Mais s'il n'y a que les armes, armes contre armes, ça peut durer très longtemps.
Oui, mais est-ce qu'on a politiquement le poids?
Ben, là, on l'a perdu, je suis bien d'accord.
On l'a perdu, face à un Poutine qui tient le pays les Russes sont désinformés et essayent peut-être un peu de se tenir à l'abri de ce genre de choses pour survivre chez eux. Jean-François, qui a des accointances russes, pourrait nous en parler. Il peut tenir très longtemps, il peut même après poursuivre après l'Ukraine, il peut essayer d'en avaler un autre.
Bien sûr.
Mais la Pologne, par exemple.
Pas, ou les Pays-Baltes, ou...
Oui, la Lettonie, la Lituanie, il y a...
Voilà, c'est quand même...
Et c'est resté sur le jabot, ça.
On a sous-estimé quand même, comme pour Israël, je pense que la société russe, elle est malade aussi, comme la société israélienne, elle est profondément malade. L'attachement qu'il y a, le vote pour Netanyahou, quand même, c'est presque même d'ailleurs voter contre leurs propres intérêts. Le jeu d'Israël aujourd'hui, franchement, est plutôt suicidaire, je trouve. Donc, c'est même lutter contre leurs propres intérêts, contre les propres intérêts. Bon, et la société russe, elle est quand même, c'est pas seulement l'information, c'est pas seulement, elle est profondément déstructurée depuis très longtemps, malade. On a géré, alors là, l'Occident, puisque moi j'aime pas ce terme, mais puisqu'on l'emploie, la transition des pays communistes au système ultralibéraux qui ont été imposés par les néolibéraux qui étaient au pouvoir a été une catastrophe.
Les Russes le savent.
On a voulu passer au capitalisme en 100 jours. C'était le truc de Hayek. En 100 jours, passage au capitalisme, avec une société qui avait presque un siècle de systèmes non démocratiques, de structures. Enfin, bon, c'est de la folie douce.
Mais face à ça, alors le Moyen-Orient est à feu à sang, on n'a pas parlé de l'Iran, mais enfin on pourra en parler. L'Amérique du Sud, c'est quand même un peu le grand foutoir, on le voit tous les jours. L'Amérique pose question. Qu'est-ce qui nous reste? L'Afrique est en permanence en but à des soubresauts politiques plus ou moins instrumentalisés. On va où, là?
Ce qu'on appelle...
Vous savez que le silence en radio n'est pas...
Oui, c'est ce qu'on appelle en sociologie une situation d'anomie. C'est-à-dire que on vient d'un certain équilibre et on va peut-être vers un autre équilibre, mais on ne voit rien de ce qui se passe sous nos yeux. Et donc tout est inquiétant. Parce que ce qui se passe sous nos yeux, c'est à la fois ça et des tas d'autres trucs qu'on ne voit pas parce que notre manière de voir les choses est entre guillemets de l'ancien monde. Voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est
un ancien monde qui est quand même très présent et très en forme.
Oui et non. Enfin,
non, l'ancien monde va mal. L'ancien monde va mal.
Il va mal, mais il n'en finit plus d'aller mal.
Ah, non, oui, mais ça, c'est long. Du coup, la violence.
Bien sûr. On ne sait pas comment on en sort.
Voilà, c'est du coup la violence. Hein, c'est la bête blessée.
Bien sûr,
mais,
bien sûr.
Mais oui. Moi, je voulais revenir un peu sur
la
géopolitique. Moi, je ne suis pas géopoliticienne et ce n'est pas mon truc. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a de l'imprévu dans l'histoire quand même. Quand sont arrivées, entre guillemets, les révolutions arabes, on ne les attendait pas du tout. C'est pas du tout ce que la suite a été, est extrêmement compliquée, mais il y a quand même de l'imprévu. Donc là, on fait un bilan.
On va pas encore sauter par la fenêtre.
Non, par exemple, ce qui se passe au Maroc, c'est pas inintéressant. Il y a eu des manifestations quand même très très importantes au Maroc et des manifestations qui remettaient en cause en même temps le pouvoir en place. Bon, ça peut être, il y a des petits ferments dans les sociétés. Moi, c'est vrai que je parle plutôt à partir des sociétés, les États, j'y crois plus du tout. Bon, voilà, ça fait 50 ans que je pense qu'on est arrivé à un point où c'est que par des bouleversements internes que ça peut se
procurer. Les révolutions arabes, certes, bouleversements internes, comme vous le dites, le résultat aujourd'hui est catastrophique.
Oui, bien sûr. Je suis d'accord, résultat est catastrophique.
C'est l'objet, y compris de la question des utopies concrètes et tout ça, qu'il faudrait ouvrir. C'est comment, à partir de tâtonnements qui sont souvent maladroits, on arrive à suffisamment monter en généralité pour fabriquer une alternative, parce que Parce que là aussi, alors ça, je veux dire, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir ? C'est bien parce qu'on n'arrive même plus à penser les choses idéologiquement et intellectuellement de façon cohérente. C'est-à-dire que c'est, ce truc-là est une espèce... Là, c'est assez épouvantable quand on fait le tour comme ça, quand on regarde du côté négatif, et en même temps, il y a des choses qui sont... Qu'est-ce qui fait système là-dedans ? Ou qu'est-ce qui pourrait faire système pour arriver à produire de la société, de l'économie, un truc comme ça ? Pour le moment, on n'en sait rien. Peut-être rien, en fait, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais...
Oui, en fait, tout cela est quand même extrêmement soucieux et se donnera certainement lieu à beaucoup de commentaires dans notre émission et dans les mois qui arrivent.
Heureusement, je crois quand même qu'il faut qu'on analyse nos propres manques, quand même. Hein. Non, je repense aux Palestiniens, par exemple. Nous n'avons, la gauche, disons, ne s'est pas assez manifestée au moment de la liquidation de la révolution syrienne. Avec la complicité de Poutine. Et ça, il y avait des Palestiniens d'ailleurs en Syrie, hein, qui étaient...
Il y
avait du monde en Syrie. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Si ce n'est s'indigner individuellement, de manière privée, etc.
L'Europe ne fait que ça, que s'indigner, puis passer à un autre sujet, tout
oui,
en
mais
continuant
même la société,
à vivre tranquillement.
Même la société qui aujourd'hui s'émeut de ce qui se passe à Gaza, ne s'est pas émue à ce moment-là de ce qui s'est passé en Syrie, de liquidation véritablement d'une opposition démocratique avec toutes ces...
Ces impuissances, ces incohérences,
voilà.
Tout ça, bien sûr.
Et donc ça, c'est tout ça qu'il faut qu'on interroge aussi.
Oui.
Nos propres.
Oui. On voit bien où moi qui, comme des tas d'autres, sommes un peu mobilisés sur la question qui est la question de ce qui se passe à Gaza. On voit bien que même en voyant pour le coup ce qui se passe de manière obscène, y compris en voyant, je veux dire au sens de moi je suis assez stupéfait par la timidité ou par la prudence que peuvent avoir un certain nombre de gens qui par ailleurs prennent des positions assez tranchées. Alors, il y en a qui prennent des positions très, très tranchées. Le problème du Moyen-Orient, c'est qu'en règle générale, comme ailleurs, mais beaucoup de façon très forte, plus on est loin, plus on a des avis tranchés. Hein, et plus, effectivement, on a la solution.
Exactement.
C'est assez classique, ça. Aujourd'hui, quand on débat, il y a des gens qui nous expliquent ce qu'on devrait faire, et voilà. Et ils y sont jamais. Moi, les copains avec qui je discute qui sont là-bas, ils sont vachement plus nuancés. Hein. Exactement. Voilà, ils sont beaucoup plus... parce qu'ils le vivent. Et ça, ça change un petit peu les choses. Voilà. Mais on a ce qui se passe concernant Gaza, je vais le dire de manière un peu caricaturale, c'est assez énorme. On a des initiatives qui sont prises en France de soutien aux gens qui sont sous les bombes et qui sont systématiquement interdites par des préfets sous la commande d'un ministre de l'Intérieur. Au risque que ça pourrait être manipulé par des terroristes. Moi, si vous voulez, j'ai dans mon ordinateur l'ensemble des appels qui ont été passés à Toulouse par les organisations. Et j'aimerais bien trouver un préfet, M. Darmanin, qui m'explique ce qu'il y a de terroristes à l'intérieur. On pourrait toujours dire que ça pourrait être terroriste. Il y a une espèce de truc aussi, ce qui, de mon point de vue, n'est pas très très bon, ni pour la démocratie, ni par le fait qu'à force d'interdire, je veux dire, et que la dimension conflictuelle, politiquement, nous ne l'assumons pas, nous aurons la violence.
Bon, Jean-François Millon, ne m'enlevez pas. Bref, je voulais parler d'un certain préfet, surnommé Bulldozer, vous voyez de qui je veux parler peut-être. Allez, je vous propose de revenir un peu chez nous, de rester terre à terre ou plutôt haut à haut. Vous savez que le Pas-de-Calais baigne depuis longtemps. Monsieur Attal s'est rué aussitôt adoubé au Pas-de-Calais, ce qui a permis au Canard Enchaîné de titrer « Mauvais signe, Attal patauge déjà ». Manque pas d'humour.
S'il a beaucoup plu, il pourrait passer pour Hollande même.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Pas-de-Calais ? Pourquoi ? Alors, il a plu, bon, on le sait, hein, il a plu énormément, mais pourquoi ça ne s'évacue pas ? Eh bien, si on en croit des propos recueillis par Pierre Bouvier dans Le Monde du 3 janvier, qui a interrogé un géologue qui s'appelle Francis Méliès, et qui nous dit ben, il y a une politique irresponsable d'artificialisation des sols, et ces crues exceptionnelles peuvent très bien s'expliquer parce qu'on a bâti, parce qu'on a artificialisé dans des endroits où pourtant les géologues, il y a plus que les géologues qui sont intervenus, mais surtout la Société géologique du Nord d'ailleurs, qui avait pointé ces dégâts provoqués par cette artificialisation. Alors il y a des épisodes de pluie exceptionnelle. On pourra peut-être se poser la question de savoir pourquoi, parce qu'il a plu au-delà de la moyenne. Mais surtout, le terrain n'était plus propice à évacuer cette eau, parce que, on le sait, toutes les haies ont été arrachées, donc ça facilite effectivement le ruissellement, puisque normalement
elle devrait. Ruissellement économique.
Voilà, c'est pas un ruissellement économique, très très cher à notre président, chose qui n'a jamais marché d'ailleurs. Il faudrait également favoriser les cultures qui peuvent stocker l'eau tout au long de l'année. Il faut curer les canaux, les fossés, supprimer certains ouvrages artificiels qui empêchent l'eau de s'évacuer vers la mer. C'est un pays très plat. Il y a aussi une montée des eaux qui freine effectivement l'évacuation vers la mer. Toutes choses qui sont totalement anthropiques, autrement dit, toutes causes qui viennent de l'homme et de l'action de l'homme. Et très curieusement, dans tous les reportages qu'on entend à la télévision notamment, on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi on en est là. On dit ces gens baignent, c'est terrible, on nous apitoie sur leur sort, et il faut s'apitoyer sur leur sort parce que ce sont la plupart du temps des gens défavorisés. Mais pourquoi, Geneviève Bazin, pourquoi on ne parle jamais des réelles causes qui ont amené cette catastrophe à perdurer?
Oui, alors vous parlez de l'artificialisation des terres. Bon, c'est dans le Nord et c'est partout sur le territoire. C'est pas la première fois qu'on accuse l'artificialisation, le béton, etc., d'être à l'origine des inondations. C'est le cas aussi, ça a été le cas dans la Côte d'Azur, oui. où il y a eu des inondations absolument énormes, avec des morts aussi, etc. Et l'origine, c'était l'artificialisation, la bétonisation, l'eau qui ne peut plus s'écouler, etc., etc. Alors dans le Nord, c'est effectivement, moi j'ai lu le travail de ces géologues,
et des géographes aussi.
Et des géographes.
Mon mot que je cherchais tout à l'heure, sans le trouver, c'est certainement l'âge.
Et d'ailleurs, ils ont un rôle extrêmement important maintenant, géologues.
On ne les écoute pas. Ont écrit là-dessus. Ils l'avaient prévu. Ils n'ont absolument pas été écoutés par des politiques dont on peut se demander s'ils sont très conscients de l'époque dans laquelle ils vivent, des menaces qui sont les nôtres.
C'est ça. Et alors, c'est ce qu'on appelle des événements sans cause. C'est-à-dire, c'est comme le réchauffement climatique. C'est comme le chaos climatique. Ah ben oui, la Terre se réchauffe. Et ce sont des événements sans cause. Et ça, c'est très symptomatique. Et on affole les gens par, effectivement, il y a une dramaturgie sur les inondations, la répétition des inondations, etc., etc. Une espèce d'apocalypse quotidienne, aujourd'hui, et c'est sans cause.
Vous ne seriez pas un peu éco-terroriste, vous, par hasard?
Il paraît. Je ne sais pas. Certains le disent. Donc voilà. Donc c'est vrai. Parce que, outre l'artificialisation, cette artificialisation devient de plus en plus grave du fait du chaos climatique. Moi, je ne dis même pas réchauffement climatique maintenant, parce qu'on n'est pas. Ce n'est pas simplement un réchauffement.
Ce n'est pas un réchauffement, c'est une mutation globale du climat.
C'est une mutation du climat. Et donc, un véritable chaos climatique avec l'imprévisibilité. Il y a une part d'imprévisibilité. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais aussi place à l'imprévu. C'est une imprévisibilité très, très importante. Donc, oui, alors là, il se trouve en plus que ce n'est pas la Côte d'Azur.
Oui, la Côte d'Azur, il y a un peu plus de sous. Donc, ça attire effectivement un peu plus d'attention. Là, on a des gens extrêmement modestes.
Dans l'imaginaire, c'est le Nord ouvrier.
Du mètre carré pas cher.
Avec du mètre carré pas cher, etc.
Donc, on peut y aller du goudron dessus.
Exactement, exactement. Et donc, ce sont des épisodes qui, effectivement, si on ne traite pas les causes du phénomène...
Mais ça se reproduira en permanence.
Ça se reproduira en permanence. Or, aujourd'hui, que nous propose-t-on? De nous adapter. Il y a même un ministre, quand même, de l'écologie, là, et celui de l'agriculture aussi, qui ont fait quand même un scénario pour le gouvernement.
De l'agriculture ou de la FNSEA?
Oui, de la FNSEA. Et donc, le ministère de l'agriculture, c'est quand même, le pilier.
Depuis François Guillaume, non.
C'est la dépendance de la FNSEA,
voilà.
Nous savons.
Et donc, ils ont quand même proposé un schéma d'augmentation moyenne de la température pour la France à 4 degrés en 2100. À 4 degrés en 2100, on ne vit plus de la même manière. Ça veut dire plus 4 degrés pour la France, c'est plus 9 ou plus 10 en moyenne.
Donc là, on ne vit plus du tout, pour le coup. Donc,
et là, ils ont quand même proposé ça. Et comment on peut s'adapter à plus 4 degrés? Donc aujourd'hui, la question, c'est l'adaptation avec les technologies vertes, etc., etc., etc. Bon, bref, un capitalisme vert avec surtout la croyance que la science va nous sortir de ce mauvais pas, mais c'est la construction d'événements sans cause.
Ce sont les cornucopiens qui pensent qu'effectivement, oui, après, la science va trouver des solutions, alors qu'on sait qu'elle peut en trouver certaines, tout en causant à côté un tas de problèmes dont on découvrira effectivement l'origine et la dangerosité des années après.
Là où elle est importante, c'est qu'elle permet de comprendre ce qui se passe justement, ce qui aujourd'hui est en partie dénié quand même. L'avis des scientifiques, finalement, compte assez peu, sauf quelques scientifiques de com, je dirais.
Vous avez certains politiques, comme le président de la région Rhône-Alpes, qui dit « moi, je n'appliquerai pas les textes concernant l'artificialisation des sols ». On croit rêver.
Mais voilà. Et personne ne fait le lien.
Même, d'ailleurs.
On devrait faire le lien entre ça et ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, dans le Nord. Hein, cette question de l'artificialisation et ce qui se passe ici dans la région du Sud-Ouest.
Oui, parce que chez nous, on artificialise. On veut faire une autoroute, paraît-il.
Entre Castres et Toulouse.
La 69, avec à Gragnac, une usine qui
et
produit...
Et pas seulement à Gragnac. Il y en a plusieurs sur le tracé de l'autoroute.
Mais qui produisent de l'enrobé à chaud, dit-on, dont on connaît les nuisances. Alors, je parlais de Gragnac, puisqu'ici, nous avons fait une émission dans le cadre de l'émission Arcania à Gragnac, et où on a vu des écoles, c'est un pays où il y a beaucoup de jeunes, d'enfants, de jeunes couples, on a vu un pays considérablement pollué à cause de ça. Ça n'a pas l'air de trop gêner nos politiques régionaux.
Non, et après je voulais ajouter, c'est que le fait que, comme ça, on présente des événements sans cause sur un mode souvent apocalyptique, génère ce que maintenant on charge les techniciens de soigner, c'est l'éco-anxiété.
Hein, oui, oui.
Alors on dit il y a de l'éco-anxiété, du fatalisme, bon, et on convoque tous les techniciens, les psychiatres, sur les radios pour nous expliquer ce que c'est que l'éco-anxiété. Hein. Effectivement, tant qu'on n'expliquera pas, tant qu'on fabriquera des événements sans cause, on fabriquera de l'éco-anxiété.
Très curieux, non, événements sans cause, alors qu'on sait très bien quelle est la cause.
Mais bien sûr.
Événements dont on ne veut pas voir la cause.
Mais bien sûr.
C'est pas tout à fait la même chose.
Ce sont des espèces de fatalités qui nous tombent du ciel. Hein, c'est totalement irrationnel. Pour des gens qui se réclament de la raison, qui se réclament de, c'est totalement...
Du pragmatisme,
etc. Bon, voilà.
Jean-François Mignard, l'éco-anxiété, ça vous prend aux tripes ?
Je suis peu anxieux et pas trop éco-anxieux, mais maintenant, ayant quelques années de vol, je mesure effectivement...
Tel un Boeing.
Alors en ce moment, pas trop un Boeing d'ailleurs, mais il faut que je surveille les portes. Mais je suis pas du tout éco-anxieux, mais c'est ce que dit Geneviève, je peux que partager. Parce que c'est quelque chose qu'on voit effectivement à tous les étages, du côté de l'artificialisation. Enfin, je veux dire, c'est à partir de là, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire, l'anxiété est un luxe qu'on ne peut pas se payer. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas, mais c'est vrai que l'anxiété, c'est de la déprime. Ou aussi de la violence à retour, hein, c'est-à-dire de la tentation de trouver dans le même registre des éléments qui sont des éléments de réponse, c'est-à-dire de rester dans l'irrationnel et de ne pas en sortir. Et je pense qu'on est aussi traversé par ça. Et que le prix à payer, c'est celui en permanence de déconstruire ces représentations-là, d'essayer d'arriver au fond et puis d'en tirer les conséquences.
Oui, puis j'ajouterais, moi je pense vraiment, parce que je rencontre pas mal de jeunes qui ne sont pas éco-anxieux du tout, mais qui sont engagés. Et qui, alors on parlait tout à l'heure des utopies concrètes, qui tentent de construire, alors dans l'adversité, dans les contradictions, dans les des utopies concrètes. Et là, c'est un, je pourrais conseiller ça, hein, par rapport à l'éco-anxiété, de s'engager concrètement et pas simplement théoriquement, idéologiquement, etc. Avec les mains et l'esprit, hein, de s'engager dans ce qu'ils appellent des utopies concrètes. Et évidemment, ça aussi, c'est comme ce que je racontais tout à l'heure sur Israël, Palestine. Ça peut paraître du. Je prends le cas de l'agroécologie. L'agroécologie n'est pas du tout née dans les ministères de l'agriculture, ni même dans la FAO, etc. Ce sont des expériences paysannes qu'il y a eu, d'ailleurs en Afrique beaucoup, en France aussi, et dans d'autres endroits, en Inde, qui ont justement permis de comprendre à nouveau ce que pourrait être une sorte de jonction entre des savoirs traditionnels, des pratiques traditionnelles et des savoirs nouveaux. Et des savoirs scientifiques, etc. Et aujourd'hui, on nous dit c'est l'agroécologie qui sauvera le monde au niveau de l'alimentation. Je le pense. Mais ça s'est inventé comment ? Ça s'est inventé dans des utopies concrètes.
Bah, l'alimentation, on peut nourrir 8 milliards d'individus, puisqu'on perd à peu près 30% de ce qu'on produit dans le monde. Donc, il y a largement de quoi les nourrir.
Oui,
c'est
oui.
un problème après de distribution, de diffusion.
Oui, et puis de ce qu'on produit, de quoi oui, on produit, et comment on le produit.
Mais le malthusianisme n'a jamais produit quoi que ce soit.
Voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est que par rapport à toutes ces choses-là, ce qui a, et c'est pour ça que votre titre d'émission me plaît bien, ça va mieux ou ça va bien ?
Nous le devons à M. Hollande, il faut rendre
je le dis
à
souvent,
César ce qui est à César.
Je le dis souvent ironiquement, oui, parce que je vois quand même, il y a toute une jeunesse qui aujourd'hui s'empare des questions à sa manière et tente, dans une adversité avec des conditions difficiles, de construire d'autres manières, d'autres rapports au monde, etc. Et ça, pour moi, c'est un réconfort extrêmement important.
Et puis on va s'arrêter sur ce réconfort. Alors j'aurais voulu aussi qu'on parle de ce qui se passe au Pakistan. On essaye de vacciner contre la polio. On a vu 5 policiers qui ont été tués et une vingtaine d'autres blessés, puisque les vaccinateurs contre la polio au Pakistan sont protégés par la police, puisqu'il y a des théories conspirationnistes aussi là-bas, pour qu'on ait besoin d'aller aux États-Unis, qui veulent que les vaccins s'inscrivent dans un complot occidental pour stériliser les enfants musulmans. Ou que ces vaccinations contiennent de la graisse de porc. Donc on voit que la désinformation, le populisme et tout ce genre de choses a encore de beaux jours devant eux. Mais l'heure nous appelle à nos dernières rubriques, et notamment les brèves. Jean-François Mignard, auriez-vous une brève ?
Oui, très très brève. Nous sommes en période de solde. Et ça commence à s'inquiéter sérieusement, parce que les Black Friday et des choses comme ça montrent que eh bien, on consomme de moins en moins, semble-t-il. On est en train de rentrer dans un cycle. Alors, ça a certainement
à voir. On a des dévendeurs, nous le savons.
Ça a certainement à voir avec l'inflation, même si Bruno Le Maire nous explique que nous en sortons, nous allons en sortir. Et le lendemain, le contraire. C'est tout récent. J'ai entendu effectivement les associations de commerçants s'alarmer de ces soldes qui s'annoncent un petit peu moroses. Je me dis, va-t'en savoir, c'est peut-être un signal faible. Positif, pour le coup.
Alors, autre brève, moi, je voulais vous dire qu'on foule le droit au pied. On a un préfet qui est le préfet des Alpes-Maritimes, qui se moque complètement de la justice, s'appelle Hugo Moutou, il est surnommé le bulldozer, et qui a interdit à 12 reprises des manifestations pro-palestiniennes. Chaque fois, le tribunal administratif de Nice lui a donné tort. Chaque fois, il a recommencé. Alors, c'est un ancien agrégé de droit public. On en a un autre dans le studio que je salue. C'est un agrégé de droit public qui a oublié son droit, peut-être, ou alors qui a une pratique de sa profession de préfet assez curieuse. Alors, évidemment, l'exemple venant d'en haut, on a vu monsieur Fabius tancer le président Macron, où il lui a expliqué quand même que ce que c'était que le Conseil constitutionnel et le droit. On a entendu aussi monsieur François Sureau, qui a été un soutien de Macron et qui a dit des choses extrêmement...
Un visiteur du soir qui est revenu sur...
Voilà, mais qui ne visitera peut-être plus beaucoup, et qui a expliqué aussi à monsieur Macron ce que c'était que le droit, ce que c'était que le Conseil constitutionnel, quelle était sa mission, et que ce n'était pas un lieu où on se défaussait quand politiquement on n'était pas courageux. Voilà, donc le droit est un peu malmené, mais j'espère que dans l'avenir, il reprendra le dessus.
Au point de vue anecdotique, quelques associations que je connais sont très redevables au préfet des Alpes-Maritimes, parce que chaque fois qu'il est condamné au tribunal administratif, ça renfloue les caisses un petit peu de ces associations-là.
Oui, ça coûte assez cher à l'État, parce qu'il y a quand même quelques milliers d'euros qui tombent dans leur caisse. Je crois que l'on est à 24 ou 25 000 euros pour l'instant.
Un truc comme ça.
Vous auriez quelque chose à nous dire dans le registre des brèves, Geneviève Hazard ?
Écoutez, non, là, vous me prenez de court. Je ne sais pas, je n'ai pas préparé ma brève. Il y en aurait sans doute beaucoup, mais...
Oh, il y en aurait énormément, oui.
Voilà.
On passe au ça va mieux ?
Au ça va mieux.
Alors là, bon, les ça va mieux, j'avoue que je suis de plus en plus sec pour en trouver.
Je reconnais là votre caractère foncièrement négatif, Jacques.
Tout à fait. Je le suis de plus en
plus. Moi, j'en ai trouvé un. Je vous le dis.
Allez.
Alors ça va mieux. C'est une supercherie. C'est que les jeunes agriculteurs, on en parlait tout à l'heure, sont en train de réaliser avec leur campagne, on marche la tête en bas. Je ne sais pas si vous circulez dans le.
Oui, nous voyons des plaques de village, de noms de village tournés.
Voilà. Alors moi qui circule un peu aussi dans la campagne, j'ai été un peu étonné. Je me suis renseigné et j'ai regardé dans quoi consistait la campagne jeunes agriculteurs. Et ils sont en train de découvrir que l'agriculture, le modèle agricole longuement promu par la FNSE, entre autres, dont ils ne sont pas complètement éloignés, est quelque chose qui fait qu'on marche sur la tête et qui leur annonce des lendemains qui chantent pas du tout. Je me dis, ça aussi, c'est un progrès. Peut-être qu'on est en train, pour le coup, d'aller aux vraies raisons et pour que les jeunes agriculteurs... Alors, ils annoncent bientôt des mouvements. La seule chose que je... Ça irait encore mieux si, par ailleurs, la manière dont ils traitent l'espace public était traitée de la même manière pour eux que pour les autres associations ou organisations qui manifestent et qui peuvent être condamnés alors qu'eux ne le sont jamais.
Alors moi, j'ai quand même un petit « ça va mieux », mais de la part du Conseil de l'Ordre des médecins, qui m'a un peu surpris, il a radié un ponte bien connu de la médecine, c'est le pédiatre Claude Griselli, qui avait été à l'origine du médiateur et qui était intervenu sur un rapport du Sénat qui concernait justement Servier. Et il avait fortement influencé le rapport du Sénat sur Servier et sur ce fameux médiator. Mais il avait oublié de dire une chose, c'est qu'il était salarié du labo, et pour des sommes quand même qui n'étaient pas négligeables. Et la justice l'a relaxé. Et alors là, le Conseil de l'Ordre, qui est quand même... sont des institutions assez...
historiquement marquées.
Conservatrices, historiquement marquées. Ben là, elle l'a purement et simplement radié. Donc parfois, il y a des sursauts qu'il faut saluer.
C'est peut-être la meilleure chose qui se sont faites pour eux, venir de se sortir des gens comme ça.
Allez, conseil culturel, moi je vais vous recommander deux livres, qui d'ailleurs s'emboîtent un peu l'un dans l'autre, si je puis dire. Il y en a un, j'en ai déjà parlé, Jean-François, à cette émission, on s'en souviendra, mais il faut absolument le lire. Il a été écrit par une universitaire bordelais, qui s'appelle Patrick Chastenet, c'est l'échappée, ça s'appelle « Les racines libertaires de l'écologie politique ». J'avais fait une émission avec Patrick Chastenet, c'est un merveilleux livre dans lequel Patrick Chastenet, qui est un spécialiste de Jacques Ellul, va nous présenter non seulement Jacques Ellul, dont il est le grand spécialiste en France, il va nous présenter Ivan Illich, qu'il faut lire, Bernard Charbonneau, Élisée Reclus, Murray Bookchin. Donc il faut...
Que du beau linge.
Que du beau linge. Il faut lire absolument ce livre qui est rigoureux, qui est vivant et qui nous introduit aux pensées de ces précurseurs qui sont encore trop méconnus. Mais enfin, ces précurseurs, oui, on en parlait il y a 60 ans. Et puis tant que vous y êtes, ben, vous procurez un livre merveilleux qui est donc du fameux Jacques Ellul, chez Pluriel, Le bluff technologique, avec une préface de l'excellent Jean-Luc Porquet, c'est le grand classique de la critique de la technique. Ça a été écrit, je crois, dans les années 80, début des années 80. Nous sommes en 2024, et quand vous le lisez, ben, vous dites, mais c'est lumineux ce que dit cet homme. Mais alors, on regarde un peu, ben, on dit, oui, il l'a écrit il y a 40, 50, 60 ans. Le club de Rome, c'était 72, 73.
Bien que bordelais, c'est juste.
Bien que bordelais, voilà, c'est juste. C'est un véritable manifeste pour une technique au service de l'homme, et on en est tellement éloigné aujourd'hui. Donc lisez Les racines libertaires de l'écologie politique de Patrick Chastenet, puis Le bluff technologique de Jacques Ellul. C'est un gros livre, mais d'une lecture tellement aisée. Alors quand vous le lisez, vous dites, c'est absolument lumineux, ça nous explique pourquoi on est, allez, je vais le dire, on est dans la merde un peu aujourd'hui, mais ça glisse sur les plumes de canard de nos politiques. On pourrait l'offrir à quelques-uns de chez nous. D'ailleurs, je ne donnerai pas les noms parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être charitable.
C'est bien.
Jean-François, ça m'honore.
Tout à fait, c'est bien pour nous aussi. Donc, deux livres aussi. Alors, peut-être pour les gens qui veulent aller plus loin sur ce qu'évoquait Geneviève Azam, je l'avais déjà évoqué ici à l'émission, hein. Le livre de la Fondation Mitterrand donnant vie aux utopies aux éditions RS, préfacé par Geneviève Azam ici présente.
Qui n'en aurait pas parlé parce que c'est une femme modeste.
Voilà, ça peut être une manière de prolongement, comme on dit, de l'émission, de lire ce livre, qui effectivement me semble reprendre cette question-là, et la met en contexte, y compris complètement dans le sens de ce qu'on a évoqué ici. Deuxième livre, c'est Eureka, de Monsieur Mébec et Monsieur Marchand, qui sont un dessinateur de bande dessinée et un universitaire. Eureka, c'est l'histoire de la science dans l'Antiquité. C'est le tome 1 d'une série qui va s'appeler Épistémée et qui est vraiment une grosse œuvre, on va dire. Il y a 6 tomes ou 7 tomes qui sont prévus. Là, c'est le premier. Et c'est la naissance de l'esprit scientifique et de ses rapports aux religieux. Alors, ça paraît comme ça extrêmement aride. En fait, pas du tout. C'est très humoristique. C'est à la fois très... C'est une BD, hein, et Jean-Benoît Bébec, c'est bien dessiné, mais derrière, il y a aussi quelque chose de très sérieux, épistémologiquement, là, pour le coup, voilà, qui fait passer, hein, la forme fait bien passer un petit peu le fond qui, des fois, est... Et c'est un enjeu, aujourd'hui, quand même, cette question-là, on en parlait à propos de la vaccination. Et puis, évidemment, nous sommes à Toulouse, en plein festival des droits de l'homme. Donc, pas mal de films au cinéma, hein, vous pouvez y aller. Et enfin, aussi pour les Toulousains, dimanche au Bikini, il y a la fête de la solidarité, qui est mise en œuvre par le réseau Éducation sans frontières, dans lequel il y a des familles sans papiers avec leurs enfants, et des familles avec papiers qui sont dans leurs écoles et qui se retrouvent ensemble pour se serrer un peu les coudes face à une loi dont le Conseil constitutionnel devrait donner des éléments de réponse le 25 janvier qui arrive, mais dont on ne peut attendre le pire dans les mois qui viennent.
Geneviève Mazam,
oui,
un mot?
Oui, je veux bien. 2 mots.
Ah, ben allez-y, même 2, 3 s'il le faut.
Alors moi, je conseillerais un livre, j'y pense suite à vos conseils, un livre de 2 sociologues allemandes qui vient d'être traduit en France. Il était paru en 1997, c'est Maria Mies et Veronika Thomsen. Ce sont les éditions de La Lenteur qui sont dans le Tarn, qui ont publié ce livre, qui sont les héritiers de Jacques Ellul, Charbonneau, etc., etc. Ça s'appelle La Subsistance, et dans lequel elles reprennent quand même beaucoup les théories de Rosa Luxembourg, etc., sur le capitalisme comme destruction des sociétés de subsistance et de la subsistance elle-même, et la nécessité de se réapproprier aujourd'hui la subsistance et tout un tas de mouvements. C'est absolument passionnant. Ça, c'est première chose. Il y en a un deuxième que je vais mettre les femmes à l'honneur. Un deuxième de Christine Ross, qui est une, elle est états-unienne, elle vit beaucoup à Paris aussi. C'est à La Fabrique. Elle a écrit plusieurs livres sur la Commune de Paris, extrêmement intéressant, et elle vient d'écrire un livre qui s'appelle « La forme commune », justement sur la manière dont aujourd'hui est reposée la question de la propriété, des communs, des nouveaux mouvements, hein, etc., etc., qui est absolument passionnant. Et puis, je conseillerais quand même le livre qui a été écrit en soutien au soulèvement de la Terre, « On ne dissout pas un soulèvement », qui a peut-être influencé, hein, je ne sais pas, qui a joué en tout cas dans le sens de non-dissolution pour l'instant des soulèvements. Donc « On ne dissout pas un soulèvement » au Seuil, qui donne aussi une idée de ces utopies concrètes, des discussions, de ce qui se passe aussi dans la société.
Merci Geneviève Mazam, merci d'être venu en studio avec nous. Et puis bon, la porte est grande ouverte, vous pouvez revenir quand vous voulez. On sera toujours ravis de vous accueillir. Voilà, c'était Ça va mieux, une émission de Jean-François Mignard et de Jacques Lavergne. Au bouton, nous avions Léo Touroult, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle émission de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Au les cœurs, belle journée à tous et à toutes.